caravana da Maximum.
Tiger!
Je me fous du...
La maladie fait partie intégrante de nos vies. Quand tu ne diras plus ta vue.
Pour
vive mon grand galion,
vive le soleil.
Vive les oreilles.
Vive.
Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste. Vous êtes à l'écoute de l'émission Les Oreilles Libres. Bonjour Laurent, bonjour Jacques. Laurent, tu vas présenter nos invités.
Oui, bonjour Christophe. Donc nous accueillons aujourd'hui Jean-Sébastien Mariage et Frédéric Gallier dans Les Oreilles Libres. Et nous venons donc d'écouter leur duo, Caméléo Vulgaris. Voilà. Bonjour, bienvenue.
Bonjour. Bonjour.
Peut-être commencer par parler
de ce qu'on vient d'entendre.
Oui. Oui.
C'est ça... sorti sur le label Léo Record il y a longtemps, en 99.
99. Donc, c'est un duo qui vous réunit depuis au moins 14 ans.
Depuis 20 ans.
Depuis 20 ans, quoi. D'accord. Oui.
Et... On s'est rencontrés assez par hasard. On habitait dans le même immeuble. Ouais. À l'époque, c'était aussi simple que ça. Wow. On a vu qu'on était musiciens. On s'est dit, tiens, on va essayer de jouer ensemble. Et puis voilà, c'est parti. Wow. Au départ, on a voulu enlever tout ce qu'on connaissait. On en a profité. On a vu cette envie commune d'oublier tout ce qu'on connaissait, de le laisser sur le pas de la porte. On était chez Fred à l'époque, qui avait un petit peu de matériel pour jouer, pour enregistrer. Et on a essayé de partir de zéro. On a fait plein d'expériences, d'expérimentations comme ça pendant quelques temps. D'accord. On a trouvé quelque chose qui nous plaisait. Et puis voilà, on a fait un premier disque qui n'est pas celui qu'on vient d'écouter, qui est un disque précédent qui s'appelle Dans la chair. Ça, c'était en 97. D'accord. Et voilà, et ce qui m'amuse, c'est que naïvement, on pensait être les seuls au monde à faire ce genre de choses à l'époque. Donc on a fait le disque, on a commencé à l'envoyer à des salles de concert, etc. Et c'est là qu'on a découvert qu'on n'était pas les seuls à faire tout ça.
On a dit, ah, là, il y a une influence de Merzbo qui est indéniable. Et on a fait, oui, oui.
Mais c'était indéniable.
C'était indéniable.
C'est-à-dire que vous n'étiez pas du tout issu de ce genre de milieu musicaux.
Non. Enfin, on était assez isolés, en fait.
Ah ouais.
Voilà. D'accord. Moi, j'étais isolé.
Peut-être on peut préciser que Jean-Sébastien Mariage joue de la guitare, Frédéric Gallier de la guitare aussi, mais basse, ouais. Électrique. Et donc ça ressemblait à ça dès le départ, la musique?
Non, on a essayé. Il y a eu quelques écueils avant.
Ah. Alors on n'est pas loin du début quand même.
Oui.
Ouais.
Voilà.
Du début. Et depuis, donc beaucoup de transformations, vous avez beaucoup joué, comment ça se passe? Parce que ça existe toujours,
on entend un disque
des 14 ans, mais l'aventure est loin d'être terminée.
Bah, on a d'abord beaucoup joué en duo comme ça. Mm-hmm. Et à l'époque de cet album Ouverture Facile, il y a aussi Bertrand Denzler et Gilbert Roger qui nous ont rejoints. C'est devenu un quartet qui a été augmenté avec Franck Vaillant.
D'accord.
Et après, on est retourné en duo. Après, enfin, ça a bougé. C'était
la géométrie variable, ouais, comme on dit. Et donc, actuellement, c'est revenu.
La base, c'est le duo. Mais ouais, on fait, par exemple, en ce moment aussi, un projet en trio avec Franck Vaillant sur le film de Georges Romero, La Nuit des Morts Vivants, qu'on diffuse pendant le concert. Donc, voilà, on est libre d'inventer un autre projet avec d'autres gens. Franck Vaillant, comme on vient de le dire, on travaille avec lui depuis très longtemps. Ça peut être quelqu'un d'autre qu'on rencontre aujourd'hui, mais voilà, la base c'est le duo et puis ça peut s'augmenter pour des projets spécifiques.
D'accord. Mm-hmm. Formidable. Et ben on en écoute peut-être un autre extrait.
Avec Franck Vaillant justement.
Avec Franck Vaillant justement.
Sur le même disque qu'on vient d'écouter.
D'accord. Radio Libertaire, la radio de la Fédération Anarchiste, les oreilles libres, nous recevons aujourd'hui Jean-Sébastien Mariage et Frédéric Gallier. On vient d'entendre à nouveau donc, le duo Caméléo Vulgaris qui vous associe tous les deux, dont on a parlé un peu avant. On a enchaîné deux morceaux en fait, un autre morceau du premier album. Là,
du second.
Du second album, ouais. Pardon. Celui qu'on a écouté en début d'émission déjà. Et on a enchaîné avec un morceau donc, du dernier album. Alors, je vais dire au pif, le quatrième.
Oui, oh, pff, je sais pas. Il y a eu quelques lives.
Il y en a qui comptent plus ou moins pour des. c'est difficile à compter. Bon, alors on va pas compter.
C'est un peu mystique.
Et on va dire que c'est le dernier en date.
Voilà.
Et
Qui s'appelle Reset.
Reset.
Et qui est sorti chez
Achelian
and Dax, le label de Hans Tamen.
Mm-hmm.
Voilà. Un petit mot sur le.
2012.
Le dernier qu'on a écouté juste avant,
ouais.
Qui s'appelait Orly Bros, uh-huh. Qu'on a enregistré donc, en 99 à la Moskova.
Franck Voyant nous en a parlé. Voilà. Il représente la Moskova.
Où vivait Franck à l'époque. Et ça s'appelle Orly Bros parce que tous les gens de la Moskova, quand on répétait tous les trois, ils nous appelaient les Orly Brothers. Ils avaient toujours l'impression qu'un avion décollait dans la cave de la Moskova. C'est resté comme ça.
Oui, c'est une musique qui s'entend, on va dire.
C'est ça.
Sur le dernier disque de Caméléo Vulgaris, la Reset, c'est plus calme, on va dire, c'est plus étiré.
Uh-huh.
C'est un petit peu pour ça qu'il porte ce nom-là, Reset. C'est un peu une remise à plat de tout ce travail qu'on a fait, comme un nouveau départ. Voilà. Et ça, donc, c'était en 2012. Et maintenant, on prépare d'autres choses, en duo toujours, qui sont pas encore enregistrées. Mais voilà.
On reconnaît quand même le son du groupe. Il y a quand même une patte sonore.
C'est ça qui nous intéresse, justement. C'est d'avoir un peu une intensité, une musique différente, mais avec ce même noyau, cette même source, en fait, qui nous réunit tous les deux avec Frédéric.
Mm-hmm.
Et le morceau qu'on vient d'écouter s'appelle Boom Urgel.
D'accord.
C'est un affrontement de chamans.
D'accord.
Voilà.
Alors, est-ce qu'on peut décrire aussi, parce que je pense que c'est intéressant de décrire le dispositif scénique, en fait, dans lequel vous jouez pour ce duo?
Oui, alors ça dépend évidemment des lieux qui nous accueillent, mais quand c'est possible, on aime bien mettre l'ampli de guitare et l'ampli de basse face à face, assez éloigné.
Avec donc ça veut dire que c'est pas un dispositif avec une sono, quoi. C'est-à-dire que chacun a son,
a priori, non.
A son ampli
oui.
Perso, quoi, et que donc vous aimez mettre les deux amplis de chacun face à face.
Oui, assez éloigné. Nous, on se place au centre. Et le public est dans cet espace-là, entre les amplis aussi.
Et les musiciens, quoi, en fait. Entre les amplis, avec les musiciens.
Voilà,
quoi.
Tout à fait. On aime bien ça parce que ça fait un espace particulier. Les gens choisissent où ils se placent.
Mm-hmm.
Il y a une possibilité, selon les lieux aussi, peut-être que les gens puissent se déplacer un petit peu, justement, ouais. S'approcher d'un des deux amplis, essayer de trouver le centre, etc.
Ouais.
Ça permet de mettre le public au centre, vraiment, du son et non pas dans une situation frontale. De spectateurs ou d'auditeurs classiques.
Ouais, ouais. Et puis c'est étrange aussi de les voir musiciens à un endroit et puis d'entendre les sons qui viennent d'un autre. C'est aussi intéressant pour ça.
Ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'on a dans cet album Reset, on a une volonté aussi, c'est d'utiliser le son pur de l'instrument électrique. Il n'y a pas de pédale d'effet, de choses comme ça. C'est deux guitares, enfin une guitare basse et une guitare, deux jacks et deux amplis.
Mm-hmm.
Et le reste, c'est nos doigts, c'est nos objets. Nos...
Ouais. Mais enfin, c'est un peu les réglages quand même de la guitare elle-même et de l'ampli lui-même.
Oui, tout à fait, mais pas d'électronique en fait.
Ouais. Et est-ce que vous changez les réglages justement de l'ampli et de la guitare en cours de...
C'est
possible.
Tout le temps.
Oui, l'ampli aussi, c'est possible. Ouais. Moi, je défends une idée qui passe, que j'ai du mal à faire passer, c'est que une guitare ou une basse avec son amplificateur produit un phénomène acoustique. Mm-hmm. Hein, c'est le son va dans l'air et chacun est totalement maître du son qu'il diffuse. Ce qui pour moi est la musique amplifiée, ce qu'on appelle musique amplifiée, c'est quand ça passe par une console avec un ingénieur du son qui va justement faire les réglages, équilibrer le tout. Ouais, donc là, les musiciens ne maîtrisent pas totalement le son qui est diffusé. Nous, on maîtrise le son autant qu'un instrument dit acoustique.
C'est de l'acoustique avec un câble au milieu.
Alors forcément, le haut-parleur diffuse le son d'une manière différente d'un violon, d'un saxophone, etc. Ouais. Mais ça reste...
Mais c'est d'autant plus, je trouve que c'est très cohérent avec le dispositif, c'est d'autant plus intéressant du coup de singulariser la provenance, l'origine du son en mettant comme ça les haut-parleurs assez distincts et puis à des endroits comme ça à l'opposé, etc. De renforcer ce côté acoustique finalement
ça produit un mélange du son qui est assez particulier qui se produit au maximum dans la zone centrale mais justement qui se produit d'autant plus que les deux amplis sont face à face contrairement à une position frontale où les deux haut-parleurs sont dans la même direction.
Très bien on profite également de l'émission pour parler des différents projets que vous pouvez mener, puisque je pense que si on peut en parler, il y a beaucoup de choses à dire. C'est très riche, aussi bien pour Jean-Sébastien que pour Fred. Est-ce qu'on peut parler peut-être du projet qui t'associe avec Édouard Perrault, qu'on avait reçu il y a peut-être un an et qui nous avait parlé déjà de Big, ce serait bien de redire un mot.
Big, ça n'existe pas depuis aussi longtemps que Camélio Vulgaris, mais pas loin, ça fait quand même bien 15 ans qu'on a, ce duo basse-batterie.
Par contre là, je me permets d'intervenir, le son change à chaque album, c'est à la différence peut-être de Camélio Vulgaris où on sent qu'il y a un truc qui se creuse, un son qui s'étire, etc. Là, je sais pas, moi me semble-t-il, ma perception de Big, c'est qu'il y a des esthétiques qui varient.
Big, c'est au départ, c'est donc Édouard et moi.
Voilà, Édouard Perrault, batterie, et Fred Gallier.
Et donc, la formule basse-batterie, on l'a appelée Big, entre parenthèses, Drum and Bass.
Ok.
Pour se réapproprier un peu
l'appellation Drum and Bass au sens littéral, donc du...
Mais on a aussi décliné la formule avec Big Pop, par exemple, un double album où c'est notre vision interplanétaire, planétaire de la pop musique à sauce big.
Donc, avec des voix et des textes assez incroyables.
Des guitares, des guitares claviers,
et tout ce qu'il faut pour faire de la pop.
Voilà.
Mais notamment, effectivement... des voix, parce qu'on n'a pas forcément l'habitude, justement, le morceau qu'on vient d'entendre ou l'univers qu'on passe d'entendre des voix sous forme presque de chansons, en fait.
Ce sont des chansons, textes dans une langue qui n'existe pas, mais ce sont des chansons.
Ouais.
D'ailleurs, on est en train d'enregistrer le Big Pop volume 2 à suivre.
Bonne nouvelle.
Et donc, ça se décline aussi. On a fini, pas très longtemps, une autre page de Big, qui est Big Dance Floor.
Donc, j'imagine la version électro-acoustique, électro, plutôt, avec des machines. Et
sans basse, sans batterie,
que des machines.
Et à suivre. On ne sait pas encore où on va sortir ça, mais...
C'est dans les tiroirs.
On te dira.
Ouais, volontiers, je viendrai danser, et puis on diffusera ça avec plaisir aussi. Et là, il y a un album donc, qui est sorti peut-être il y a un an ou deux.
Un an. Qui s'appelle Apocalypsis. Mm-hmm.
Donc là, on est en grec dans le texte. Mm-hmm. C'est grec,
oui. Oui, qui veut dire. Qui est l'origine de Apocalypse, qui signifie révélation.
Révélation.
Ou enlèvement du voile, dévoilé.
Dévoilé.
Apocalypse, en fait, c'est. Ça veut dire ça en grec, et c'est devenu un style littéraire, en fait, à l'époque. Et dont l'Apocalypse de Jean, mais il y a plein d'Apocalypse, en fait. L'Apocalypse, ça n'a rien de fin du monde, en fait. C'est une révélation.
Ok, voilà. très bien.
C'est pour ça qu'on l'a appelé comme ça.
Oui, parce que votre album est une révélation, en fait.
C'est la...
non, je veux dire, révèle aux auditeurs une vérité acoustique ignorée jusqu'à présent.
c'est vrai qu'on a aussi beaucoup utilisé avec Edouard d'électronique, de capteurs sur la batterie, des choses comme ça. Là, c'est une batterie purement acoustique et une basse. Il n'y a pas d'overdub et de choses comme ça. On retourne à quelque chose d'assez simple.
Direct, quoi.
Direct. Et
là, on retrouve encore d'ailleurs la philosophie de Camelio Vulgaris, le fait de...
Aussi, c'est vrai. Bon, là, j'utilise des effets, mais ça reste une basse et une batterie, quoi.
Ok. Voilà. Eh ben, peut-être on écoute...
D'accord.
Un morceau de cet album ?
D'accord.
Thank you.
Les oreilles libres sur Radio Libertaire, nous recevons Jean-Sébastien Mariage et Frédéric Gallier et nous venons d'entendre Big, le duo donc, qui associe Fred avec Édouard Perrault. Cette fois-ci, on reconnaît beaucoup plus la formule instrumentale, c'est-à-dire
tout
on
à
distingue
basse
très
batterie.
Nettement voilà, les deux, les deux instruments. Tu peux présenter peut-être le morceau qu'on vient d'entendre?
Oui, ça s'appelle... Ça s'appelle Old Ocean, mais j'ai un accent anglais assez pitoyable.
Le vieil océan.
Vieil océan, en référence au poème de L'autre et amant. Mm-hmm. Et c'est une espèce de long blues flottant. Ouais. Donc sorti sur l'album Apocalypsis, qui est chez Musea. Donc disponible chez Musea ou sur le site, comme tous les autres disques qu'on vous fait écouter aujourd'hui, sur notre catalogue avec Jean-Sébastien, qui s'appelle Inversus Doxa, donc inversus-doxa.fr. C'est le site qui regroupe nos travaux en commun et nos travaux pas en commun.
Ben alors peut-être qu'on peut en parler maintenant, puisque tu abordes le sujet, puisque c'est pas seulement un site internet. Effectivement, il y a le site internet donc, de Inversus Doxa qui regroupe vos travaux, donc permet de commander les disques, de repérer les concerts, et puis d'avoir aussi...
de voir des vidéos, des extraits,
des textes, etc. Il y a beaucoup de choses, c'est très riche. Donc on invite tous les auditeurs à aller voir le site Inversus Doxa, I-N-V-E-R-S-U-S, plus loin, Doxa, D-O-X-A. Qu'est-ce que ça veut dire, ça?
C'est inversus en latin, inverse, et doxa en grec, opinion.
Ah,
et c'est-à-dire que vous avez des opinions inverses à la majorité des
gens.
À tout.
Je suis contre.
Bien.
Alors, c'est juste une manière d'affirmer qu'on ne se place pas forcément dans un courant majoritaire, qu'on prend une place qui nous est propre. Mm-hmm. On essaye de fabriquer notre place propre.
Ouais. Et c'est cohérent aussi avec le fait justement de s'approprier les moyens de diffusion, ou en tout cas pour une part, de communication à travers un site internet, et puis voilà, de faire le travail effectivement.
On a besoin aujourd'hui de s'organiser nous-mêmes, on peut pas toujours s'appuyer sur des structures existantes, d'une part pour garder une certaine liberté, et puis aussi pour faire un lien justement entre toutes ces structures existantes.
Et alors concrètement, donc Inversus Doxa, ça vous sert à quoi?
À communiquer, beaucoup, par le biais de la newsletter qu'on envoie aussi, donc où c'est toutes nos actualités.
D'accord.
C'est très bien cette newsletter. Je recommande aux auditeurs de s'y inscrire. Je ne sais pas comment on fait d'ailleurs.
Sur le site, on peut s'inscrire à la newsletter.
Tout à fait. Donc ça nous sert à ça. C'est aussi un label.
Voilà, je voulais revenir aussi.
Là, pour l'instant, il y a une seule production qui est mon solo, qui s'appelle Missing Time.
Uh-huh. Qui est produit donc, par Inversus.
On avait commencé il y a quelques années avec Inversus Doxa à produire des disques, mais c'est pour ça qu'on a hésité sur le nombre de disques de Camel Bulgaris, parce qu'ils sont plus disponibles, ces disques. C'est pour
d'accord.
ça. On avait répertorié pas mal d'enregistrements à l'époque, qui ne sont plus disponibles malheureusement. Et d'ailleurs, pour certains, qui sont en téléchargement libre, justement, sur le site.
D'accord. Voilà.
Des concerts...
Ok. Et bien donc, c'est dit, c'est important de le mentionner, c'est important effectivement d'affirmer que les musiciens se saisissent aussi de ces outils-là.
Et Inversus Doxa aussi, parce que pas de frontières esthétiques. On ne veut pas défendre un courant de musique, on veut défendre une sincérité et une qualité, mais pas une esthétique en fait.
Mais non, non plus.
Voilà. Bien, c'est pour ça que on écoutera tout à l'heure ce qui va sortir bientôt sur Inversus Doxa, qui est très différent de tout ce qu'on a écouté là.
Ok. Bah, peut-être on parle alors d'un projet maintenant de Jean-Sébastien Mariage, puisque on a écouté un de Fred donc avec Édouard Perrault. Je pense au duo avec Natacha Muslera.
Exactement.
Ouais.
Oui, le duo Bézanville, qui existe depuis assez longtemps aussi, hein, c'est plus de 15 ans. Natacha, donc, qui fait de la voix, mm-hmm. qui chante, elle préfère qu'on dise qu'elle fait de la voix, c'est vrai que c'est plus juste.
Puis elle, c'est vrai qu'elle, quelque part, elle écrit aussi, enfin, elle écrit des textes, c'est pas...
Oui, pas dans ce projet-là.
Ah, pas dans ce projet-là.
Il n'y a pas de texte dans ce projet-là, elle n'a jamais proposé ça.
Ok.
Au départ de ce projet, on voulait justement essayer de trouver une solution pour... casser un petit peu cette hiérarchie entre la voix et les instruments, et puis la voix et la guitare, c'est un duo qui est très répandu, dans le sens où la voix est toujours devant, elle est toujours soliste. Et même psychologiquement, quand il y a une voix, on écoute en premier la voix, et donc les instruments sont derrière à faire de l'accompagnement. Donc on a travaillé à essayer de briser ça, de trouver d'autres solutions pour que la voix et l'instrument, en l'occurrence la guitare, soient au même niveau.
D'accord.
Alors on a beaucoup travaillé ça, mais finalement, avec le temps, on s'est dit c'est impossible. C'est impossible essentiellement pour des facteurs psychologiques. Il n'y a rien à faire, c'est la voix, c'est l'humain qu'on écoute en premier. Donc on est tout de même dans une musique où les interventions de chacun sont égalitaires, où il n'y a pas justement un soliste et une guitare. Parfois la guitare même peut écraser un petit peu la voix, ça c'est tout à fait conscient et assumé, justement pour essayer de rétablir un équilibre. Et on est passé aussi par pas mal de formes différentes. Aujourd'hui, on travaille sur des formes mouvantes, on va dire. Ça bouge très vite, on n'installe pas d'idées. Ça peut bouger n'importe où, n'importe quand. Voilà. Et puis, bien sûr que sur la longueur, il y a quand même une esthétique qui se dégage de ça.
D'accord, très bien. Et au niveau de la voix, comment elle l'amplifie, parce que j'imagine quand même qu'on peut ruser pour éviter qu'on...
Oh non, enfin, on peut ruser, on peut utiliser n'importe quel moyen, mais c'est pas parce qu'il y a une guitare électrique que ça va être très fort forcément. Il se trouve que dans ce projet, on joue assez fort.
Par rapport plus aux facteurs psychologiques justement. Et,
même si la voix est sous-mixée, même si elle est moins forte que l'instrument, le cerveau va se focaliser sur la voix de toute façon. Mais là, c'est vrai que c'est intéressant de parler aussi du dispositif qu'on utilise. Natacha chante sur un ampli de guitare. Elle a son micro branché directement sur un ampli de guitare.
Ça, c'est une sacrée ruse quand même.
Oui. Les deux amplis sont côte à côte, là, contrairement à la disposition dont on parlait sur Camilo Vulgaris tout à l'heure.
Ouais.
Ils sont côte à côte, très près, très rapprochés, et nous devant ces amplis. Donc là, ça aide aussi déjà à mélanger le son, à mêler le son comme ça.
Puisque finalement, les deux sons sortent d'un haut-parleur de guitare.
De deux haut-parleurs, puisqu'il y a deux amplis.
Ouais.
Mais
ils ont ça en commun, on va dire.
Voilà, tout à fait. Et puis la voix sort sur un haut-parleur, un ampli de deux guitares. Donc ça rapproche le timbre, les fréquences de celle de la guitare.
Très bien.
Là, donc on a fait un disque assez récemment. C'était quand ? C'était en octobre, novembre, je crois. Un disque qui a été fait par le label Vendeuvre, qui est fait par le Centre culturel André Malraux à Vendeuvre-les-Nancy.
Voilà.
On a été très bien accueillis pour ce disque-là. On a été passé une semaine là-bas pour enregistrer. Ils se sont occupés de tout. On leur a demandé de prendre une photo de Philippe Langlais aussi, qui lui est un photographe à Lille et musicien aussi.
Pour l'album, quoi.
Pour l'album, ouais, voilà, tout à fait. Photo qui est déclinée sur toutes les faces du CD.
Okay.
Et voilà.
Eh ben, on écoute alors.
Eh ben, avec plaisir.
un petit problème technique sur Radio Libertaire. Nous allons meubler un petit peu. Alors, qu'en est-il, les amis? Nous allons entendre incessamment sous peu Baisenville.
Qui pourtant n'est pas un disque silencieux du tout.
Non, ça je confirme que. Ah non, c'est pas du tout.
Oh,
Bézanville sur Radio Libertaire dans les oreilles libres avec Jean-Sébastien Mariage, avec Frédéric Gallier qui sont nos invités aujourd'hui. Et donc Bézanville, c'est le duo qui associe Jean-Sébastien avec Natacha Muslera. Bon, il y a des ruses quand même à la voix, non seulement de la faire passer par l'ampli, mais aussi dans le phrasé, quoi. C'est-à-dire dans le, on est loin dans le rythme et dans l'articulation de la parole, et justement aller dans un phrasé beaucoup plus instrumental. Enfin, là, aussi une façon d'utiliser sa voix qui rejoint la guitare par son timbre, par son énergie, par beaucoup de choses.
Oui, je dirais pas des ruses, ce sont des moyens peut-être, ce sont des méthodes. Ouais. Oui, bah voilà, ça fait partie des projets où la voix est utilisée comme un instrument, mm-hmm. Vraiment, où justement elle n'est pas faite pour être en premier plan, comme je le disais tout à l'heure. Que dire de plus, que ça fait longtemps qu'on joue de la musique ensemble, et c'est ça qui est, comme avec Frédéric, très agréable. J'ai quelques amis musiciens comme ça avec qui je travaille depuis très longtemps, Bertrand Hensler aussi par exemple. Mm-hmm. C'est qu'au bout d'un moment, il y a une écoute qui se transforme et qui d'ailleurs ne passe plus tant par les oreilles que ça. Alors, bien sûr, dans l'improvisation, l'écoute est totalement primordiale. Elle est, à mon sens, même plus importante que le fait de générer le son. Mais avec le temps, quand on est au-delà de la confiance, quand on sent vraiment quelqu'un qui est là à côté de soi, l'écoute se déplace vers une présence, quoi. On sait que l'autre ou les autres sont là. On n'a plus besoin d'écouter avec on ne doute plus, on se méfie plus du tout, on n'attend plus, on sent que l'autre est là, et il suffit d'être bien avec l'autre.
Il y a une histoire de confiance aussi dans tout ça.
T'étais sorti du studio, tu n'as pas entendu que je l'avais parlé.
Autant pour moi.
Et c'est souvent
et d'amour.
Ouais. Oui, de l'amour.
C'est souvent plus des histoires, parce qu'on pose assez régulièrement cette question. Et indéniablement, on nous répond plus des histoires de rapports humains que de. Par exemple, toi, par exemple, c'est pas une envie de jouer avec une chanteuse, c'est vraiment la personne qui est intéressée. J'ai l'impression que c'est souvent ça qui revient, en fait.
Alors, au tout départ, souvent, il y a cette envie quand même de travailler avec tel instrument ou tel instrumentiste, puisque dans le cas de Natacha par exemple, on se connaissait pas avant de commencer à faire de la musique ensemble, mais effectivement très vite ça devient ça n'est plus important, l'instrument ou la voix ou quoi, ça n'est plus important du tout. Effectivement, c'est la relation qu'il y a entre nous qui compte.
Et ce qui est vrai aussi, c'est que dans ces musiques où on est très investi de nous-mêmes, en fait. Y a pas de dissociation réelle entre qui on est et ce qu'on fait et l'instrument qu'on joue, en fait. C'est assez mêlé, tout ça. On peut pas remplacer quelqu'un dans ce genre de projet pour un concert ou pour un enregistrement. Parce que Jean-Sébastien, c'est pas un guitariste, c'est Jean-Sébastien qui joue de la guitare. Tout est lié, en fait.
On n'est pas du tout comme beaucoup d'autres musiciens autour de l'improvisation et de tout ce qui est pratique musicale contemporaine. Pas tout le monde d'ailleurs, mais il y en a beaucoup. On n'est pas du tout dans l'idée de fabriquer un produit dans le but de servir un certain, de séduire un certain public, ou de la préméditation d'une esthétique. C'est vraiment cette rencontre et ce travail ensemble, de cette rencontre et de ce travail ensemble, qui va jaillir une musique, éventuellement une esthétique. Ça, c'est une question assez complexe aussi, l'esthétique. Y a pas de préméditation dans notre
Ça se bâtit au fur et à mesure de la rencontre et du travail et de
la vie.
On prend ce qui sort de ces relations.
Ouais. Et par rapport au public, c'est important tout de même de rencontrer ce public, qu'il y ait du monde. Est-ce que vous cherchez à faire venir du monde ou pas du tout? On fait notre truc et vienne qui veut, vienne qui peut. Et...
Oui, c'est une grande question aussi. Ouais. Dans l'idée, moi je joue à chaque fois que je suis avec mon instrument et que je joue de la musique, je cherche cette tension intérieure, cette vie de la musique. Donc dans l'idée, effectivement, je peux être seul chez moi, je peux être dans un studio, je peux être dans une salle de concert vide. Mmh. C'est pareil que s'il y a un public. Mais dans les faits, le public, quand il y a du public, ça change quelque chose. Ça, il y a une attente, il y a une écoute et ça nous aspire. Ça crée une tension supplémentaire. Ça, c'est l'expérience. Et dans les faits, il n'y a rien à faire. En tout cas, pour moi, ça change. Bien sûr.
Oui, je pense que c'est beaucoup une musique qui se joue en vivant et en direct.
Alors, parlant de cette musique, je pose à qui veut l'entendre la question en ce moment, une question très, très scolaire. Comment la nommez-vous, cette musique? Quel genre de musique? Enfin, est-ce qu'il y a un mot pour...
Musique, j'aime bien. Non, mais je suis sérieux, en fait.
Non, c'est pas mal. Je suis en train de recenser tous les termes, si tu veux.
Oui, bah note-le, celui-là, il est bien.
Oui, ouais, on a tendance à trop nommer la musique. Bon, alors, le terme qui revient souvent, c'est le terme de musique improvisée. Il veut tout et rien dire, ce terme. On l'associe à plein de choses. Il y a même des petites guerres pour savoir qui improvise vraiment, etc. Oui, oui. C'est assez inutile, je trouve. Alors,
oui. Qu'est-ce que c'est que l'improvisation? Après, on peut se poser la question. Est-ce que ça existe vraiment? Est-ce que Beethoven, quand il compose une symphonie, est-ce que c'est autre chose que de l'improvisation en temps différé?
Oui, je pense. Par contre, tu penses que là-dessus...
Bah, tout ce qui vient de ton cerveau, quelque part, tu l'auto-improvises. Donc, que tu le mettes sur papier ou que tu le composes dans l'instant présent... La différence n'est pas si énorme que ça.
Ben, le temps de la création...
Le temps, la temporalité change, mais...
Que la temporalité change. Mais quand j'écoute une œuvre de Beethoven, c'est sûr que c'est de la composition et pas de l'improvisation.
Oui, il y a une belle phrase de Steve Lacy là-dessus qui dit qu'un compositeur a tout le temps nécessaire pour déterminer ce qu'il va dire en 15 secondes, alors qu'un improvisateur, lui, a 15 secondes.
Et je crois que la différence, justement, c'est de ce dont tu parlais juste avant, c'est-à-dire le fait qu'on ressente en public que ça change quelque chose. Le compositeur, ça ne changera rien, parce que toute la composition, elle est fixée, et il n'y a pas cette circulation entre la situation, le public... Après, de calculer la part d'improvisation, etc., c'est difficile, mais de calculer la part de composition, ça c'est facile, c'est effectivement tout ce qui est fixé avant, et quand on me joue du Beethoven, c'est ce qu'a écrit Beethoven, c'est une composition.
L'interprétation, elle est très importante aussi...
que j'ai rien.
Non, t'as pas... Non, mais si,
L'interprétation, elle est très importante aussi, et j'en parlais avec Jacques Di Donato, qui lui fait énormément d'improvisation, à la clarinette, à la batterie aussi. On a d'ailleurs un trio avec Frédéric qui s'appelle Zinc. Ouais. Mais Jacques, qui a joué énormément de musique classique, de musique contemporaine, ouais. Et lui, justement, à propos de ça, disait que ce que lui a amené l'expérience de l'interprétation, hein, de musique composée, ouais. C'est de savoir, juste avant de jouer, ce qu'il était capable de faire à ce moment-là. Quand on interprète, on n'est pas toujours capable de faire la même chose de la même manière. Donc voilà encore un endroit où moi j'ai pas envie de mettre des barrières aussi rigides entre improvisation, interprétation. Et c'est assez rare justement ces tentatives de mêler les deux. Bon, faut dire que c'est très difficile.
Interprétation et...
composition et improvisation. Ouais. Mais pourquoi pas, et si on a des idées, essayons-les. Voilà.
Bah, c'est assez rare, non? C'est courant.
De plus en plus. Ouais.
Bon, en parlant de groupes qui ont des noms poétiques, puisqu'il y avait Bézanville avec Natacha Musselera, on peut peut-être parler de Zor.
Oui, avec plaisir. Donc Zor, qui est un trio avec Bertrand Denzler et Antonin Bertrand Denzler au saxophone ténor et Antonin Gerbal à la batterie.
Ouais.
C'est un trio qui existe depuis combien de temps déjà? Quelque chose comme 2 ans.
2 ans, ouais.
Voilà, il y a un disque qu'on va écouter, un extrait d'un disque qui est sorti très récemment sur le label Umlaut. Mmh. Alors Umlaut, c'est un collectif qui existe à Paris et à Berlin. Ce sont pour ce qui est de Paris, des séries de concerts qui ont lieu dans le 18e, environ une fois par mois. Il y a également un festival Umlaut que je recommande à tous parce qu'il y a un très bon esprit, de la très bonne musique.
Je peux le dire, et on les a invités déjà à plusieurs reprises.
D'accord.
Ils reviendront au soutien, effectivement.
Très bien.
Umlaut, donc c'est ce label qui accueille le premier enregistrement du disque de Zor.
Exactement. Zor, c'est un... Bon, alors avec Bertrand Denzler, c'est pareil, ça fait très longtemps qu'on joue de la musique ensemble. Bertrand Denzler, il a joué dans Camelo Vulgaris. Et dans Hubbub aussi, effectivement, qui est un quintet.
Avec Jean-Luc Guionnet et Edouard Perrault.
Et Frédéric Blandy, tout à fait. Avec Zohar, on a eu envie de... Enfin, c'est une idée de Bertrand à la base, qu'on s'est appropriée avec Antonin. On a eu envie de ne pas utiliser ce qu'on appelle de technique étendue, c'est-à-dire d'utiliser des objets pour manipuler des instruments. On a eu envie de retourner à une manipulation entre guillemets normale des instruments, c'est-à-dire que moi je n'utilise pas d'archet, de bottleneck, de choses comme ça, pour voir ce que ça faisait, comment on pouvait finalement continuer à faire cette musique qu'on faisait déjà, mais avec l'instrument joué tel qu'il est fait pour être joué. C'est-à-dire, moi j'aime bien parler sur la guitare de longueur de corde en fait. C'est-à-dire concrètement que je fais des notes avec des durées, donc avec du rythme. Mais comment, avec ces éléments-là, ne pas jouer de mélodie ou d'harmonie, mais jouer de la matière. Alors c'est un peu l'enjeu, on a beaucoup travaillé, on a répété pendant un an avant de faire le premier concert, parce qu'on était face à une grosse question, il fallait trouver des solutions. Ouais. Et voilà, on a estimé qu'on avait trouvé suffisamment de solutions pour commencer à jouer ce trio et à l'enregistrer.
Des pédales d'effet tout de même?
Moi j'utilise, c'est très exceptionnel que j'utilise des pédales d'effet. On voulait en parler aussi justement, j'en utilise dans un autre projet qu'on a en commun avec Frédéric, qui est une pièce de Frédéric pour guitare électrique et bande, mais voilà, c'est un des seuls projets où j'utilise des effets, moi systématiquement c'est guitare, câble, ampli. Okay. Voilà.
Et encore, les effets utilisés pour cette pièce sont... ce ne sont pas des effets qui transforment le son réellement. Le son est vraiment généré par la guitare électrique. C'est juste que cette pièce est un long continuum d'une heure.
Donc là, tu parles de la...
De la pièce Morphème.
De la pièce Morphème, donc qui vous associe.
Voilà.
Et c'est toi qui compose la...
Que j'ai composé et que Jean-Sébastien interprète.
On est justement dans un contexte où Frédéric me propose une composition, c'est réellement une composition, ouais, mais qui laisse énormément d'ouverture à l'interprétation. Ouais. C'est-à-dire que moi, j'ai dû trouver des choses, faire des choix. Cette pièce pourrait sonner, ce serait la même pièce, mais elle pourrait sonner totalement différemment, si soit moi j'avais pris d'autres directions,
soit si quelqu'un d'autre l'a joué. Et en fait, dans la composition elle-même, j'ai laissé en fait la partie rythmique, on pourrait dire, et timbrale au choix de Jean-Sébastien.
D'accord.
Ce qui fait que en fait j'ai composer la forme, les hauteurs, les découpages temporels. Et à l'intérieur de ça, la partie rythmique, séquentielle ou et timbrale sont laissées à l'interprète.
D'accord.
Sachant qu'il y a c'est entouré par une bande électro et que l'idée globale est quand même très claire. Que l'instrumentiste qui joue la pièce et la bande doivent faire un seul et même méta-instrument.
Mmh. Mais donc sur cette bande, il n'y a pas forcément d'éléments justement rythmiques ou harmoniques
Si. L'harmonie de la bande et l'harmonie de la guitare sont vraiment imbriquées. Et comme c'est un continuum de longues tenues, il y a quand même des éléments rythmiques qu'on peut percevoir, mais qui sont en fait, qui doivent être la résultante du choix rythmique et timbral du guitariste qui se marie à la bande électro. C'est à la continuité harmonique de la pièce.
Cette pièce Morphème sera jouée pour la première fois aux Instants Chavirés pour le Festival Extension le 7 mai prochain.
Ouais. Le festival de la Muse en circuit.
Tout à c'est fait. Ça. Et qu'on a fabriqué, qu'on a expérimenté au GRM. Merci au GRM. En octobre dernier.
Génial. Ben, on va donc pas pouvoir l'écouter, mais on peut peut-être écouter Zohar.
Avec plaisir. Thank you.
Hey, bonjour, vous êtes sur Radio Libertaire, et c'est Les Oreilles Libres, et c'est Jean-Sébastien Mariage et Frédéric Gallier que nous recevons aujourd'hui. Donc, on a écouté un magnifique morceau de Zor, le trio qui réunit Jean-Sébastien Mariage avec Bertrand Denzeler et Antonin Gerbal, sur le label Umlaut. Il vient de sortir, le disque était distribué lors du concert que j'ai eu le plaisir d'aller écouter récemment. Donc c'est encore chaud au fumant, ça sort du boulanger quoi. On continue l'émission ?
Allez, d'accord.
Très bonne idée.
Allez, et si on parlait d'un projet de Fred Gallier qui s'appelle Wintermass ?
Et très très bonne idée.
Ah, bah, je te laisse le faire.
Donc, Wintermass, là ce qu'on va écouter, c'est un peu un inédit parce que le premier album n'est pas encore sorti. Et là ce qu'on va écouter n'est même pas encore masterisé, c'est fin de mix.
Merci d'avoir.
Voilà. Qui va sortir sur le label Inversus Doxa. Mm-hmm. Et donc Wintermass, c'est Sayoko, une chanteuse et poète japonaise qui écrit et chante en japonais. Mm-hmm. Jacques Di Donato qui joue clarinette et percussion, parce que c'est pas batterie vraiment, c'est un set de percussion avec deux tom basses, deux cymbales et plein de petits objets et une grosse caisse. En fait, je voulais pas de caisse claire et de Charleston en fait dans ce projet.
D'accord.
Donc
et toi-même donc
à la basse électrique, j'ai composé la musique. Mm-hmm. Et donc Sayoko sur beaucoup de morceaux compose ses mélodies de voix on mélange ma composition musicale et sa composition de mélodie. Uh-huh. D'autres morceaux tout est écrit par une seule personne mais souvent on confronte nos deux univers mélodiques.
Ah ouais.
dans les mêmes morceaux.
D'accord.
Donc,
c'est un trio qui a été formé de longtemps
Ça fait 4 ans maintenant que ça existe, je crois. Mm-hmm. Ouais. Et en fait, j'ai rencontré Sayoko sur MySpace. Elle est venue voir un concert de Big, justement. Uh-huh. On a sympathisé, on a dit « mais faut qu'on fasse un truc ensemble ouais. ». Et là, tout de suite, en entendant sa voix, et j'ai pensé à Jacques, je me suis dit que sa voix, la basse électrique et la clarinette de Jacques, ça va être formidable. J'ai appelé Jacques, je lui ai dit « Écoute, j'ai un projet à te proposer ». Il m'a dit « Oh, je suis occupé, mais c'est oui ». Donc il a raccroché, et donc c'était oui, et c'est parti comme ça.
Yes.
Donc,
super.
On va écouter ça, ce sera le premier morceau de l'album à venir.
Et ouais, en exclusivité pour les auditeurs des Oreilles Libres sur Radio Liberté.
École ta cocolo ca autorita su waltu chokioli no tsuku ai oborete kielu. Thank you. とは死ぬ視線もつれるステップ
Eh bien, nous venons d'entendre le trio Wintermass dans lequel joue Frédéric Gallier.
Avec Jacques Di Donato et Sayoko. Il y avait un petit souci au début parce qu'il y avait deux pistes qui passaient en
voilà,
même temps, mais je crois qu'on a compris.
Voilà, qu'on a résolu et donc vous avez compris.
Peut-être on peut faire des annonces.
Eh bien, c'est sans doute le moment, puisqu'on n'est pas loin de la fin de l'émission pour faire quelques annonces. Est-ce que tu as des annonces à faire?
Eh bien oui, moi je vous annonce, si vous êtes en Lorraine ce soir, aux alentours de Vendeuvre-les-Nancy, vendredi 21 février, donc c'est ce soir à 18h30, projection du court-métrage Les Trois Quarts de la Vie du collectif Medvedkin. C'est une soirée autour du collectif Medvedkin. Et d'un spectacle Résister à la chaîne. Alors 18h30, court-métrage, 3 quarts de la vie. 19h, conférence débat avec Christian Corrouge et Maurice Pialou. Christian Corrouge qui est l'ouvrier à partir duquel le livre Résister à la chaîne a été écrit. Et également le spectacle Résister à la chaîne qui aura lieu ce soir à 21h au CCAM de Vendeuvre, rue de Parme. Donc 21h, c'est le projet issu de la lecture de l'ouvrage Résister à la chaîne. Et c'est par la compagnie Les Patries Imaginaires, avec Perrine Morin et Guy Gouchenevier qui compose la musique et qui joue les percussions. Guy Gouchenevier et ses musiciens.
Je rappelle qu'on écoute Radio Libertaire sur 89.4 en région parisienne et partout dans le monde et en Lorraine sur
Bien entendu. Et pour terminer cette soirée, à 22h, projection 2 avec le sang des autres du collectif Medvedkin. Ce soir, aux instants chavirés, ouais. Alors c'est aux instants chavirés, donc 7 rue Richard Lenoir à Montreuil, métro Robespierre et à Jason l'Escalette, France Sauvage et Olivia Bloch. Toutes les infos sur le site des instants chavirés. Je veux aussi annoncer le 27 février,
oui, s'il te plaît,
aux mêmes instants chavirés, mêmes adresses, mêmes horaires, donc 20h30. Toshimaru Takamura et Jean-Luc Guillonnet en duo. Alors Toshimaru joue du No Input Mixing Board. Hein. Et Jean-Luc Guillonnet.
Et Jean-Luc Guillonnet du saxophone.
Du saxophone. Et également Stéphane Rive au saxophone. Voilà. Et Stéphane Rive qui sera en direct dans nos studios la semaine prochaine.
C'est-à-dire le lendemain du concert. Donc je vous encourage à aller voir le concert et à écouter donc, l'émission la semaine prochaine. En direct. J'annonce également la semaine prochaine, le mercredi 26 février, à 21h au Cirque Électrique, la prochaine soirée Coax. C'est Syntax Error et l'autre groupe Sheikh Anorak. Voilà, 8€. Le Cirque Électrique, c'est place du Marquis du Vercors. Vous savez où c'est peut-être.
Superbe, Syntax Error, cela dit en passant. Très, très bon groupe.
Voilà, bah, merci. Nos invités jouent au mois de mars. On retrouve Fred Gallier avec Edouard Perrault, Arnaud Roulin, Laurent Barden, Fabrice Martinez et Thomas de Pourquerie. Dans le projet de Thomas de Pourquerie, c'est Supersonic, l'hommage à Sonnera, au Théâtre de Vanves le 15 mars prochain. Et le lendemain, le 16 mars, dans le cadre des concerts de l'Atelier Tampon, donc ça doit être au Temps du Corps.
Exactement.
Voilà, rue de l'Échiquier, exactement, dans le 10e arrondissement de Paris. Eh bien, le prochain concert du groupe mythique Hubbub, dont on a parlé tout à l'heure, avec Jean-Luc Guillonnet, Édouard Perrault, Frédéric Blondy, Bertrand Danzeler et Jean-Sébastien Mariage, qui était notre invité aujourd'hui.
Alors peut-être toutes ces infos sur le site Inversus Doxa qu'on peut
tout à fait,
peut rappeler.
Voilà, avant de laisser la parole à sortir du colonialisme, je voulais rappeler que il y a le vendredi 7 mars une rencontre, samedi 22 février pardon, à 16h30, ouais. C'est pas pareil quand même, pas confondre, c'est-à-dire samedi là quoi, demain. Projection du film Génocidé, entretien avec le révérien Rouganda, pardon c'est son nom, pardon si je l'écorche, et pour animer le débat, il y aura le collectif de soutien aux femmes Tutsi ayant porté plainte pour viol contre des militaires français, et Annie Faure, qui est médecin et écrivaine, présente pour Médecins du Monde au Rwanda pendant le génocide. Elle est membre de la commission d'enquête citoyenne pour la vérité sur l'implication française dans le génocide des Tutsi. Donc c'est à la librairie du Monde de Libertaire, 145 rue Hamelot, à Paris dans le 11e, et c'est entrée libre, donc demain, samedi 22 février à 16h30. Voilà pour les annonces. Merci beaucoup Jean-Sébastien Mariage,
merci à
beaucoup
vous.
Fred Gallier d'avoir merci. Accepté notre invitation et d'être venu présenter et partager votre musique avec nos auditeurs.
Quitte avec
un petit morceau de votre duo pour
l'album Risette.
Sur l'album Risette. C'est Camélo Vulgaris et
You. Et tout de suite après nos amis deux pour en finir avec le colonialisme. Allez, salut.
Ciao.
Ciao.